Studio Tamani, voici les informations en français.
À vous qui nous suivez en ce moment, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les habitants des villages de Singidara et Famabougou dans le cercle de Nyono sont sommés de quitter leur localité. L'ultimatum est donné par des hommes armés. Ce 1er mars marque la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Pour célébrer cet événement, le Mali a choisi pour thème le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques. Le FESPACO se poursuit dans le pays des hommes intègres. 8 films maliens sur les 10 ont déjà été projetés. Les acteurs maliens et burkinabés échangent sur des perspectives en faveur de l'intérêt et du cinéma. À la présentation, Adama Amadou Haïdara, Fili Dambélé est à la mise en onde. Les menaces djihadistes continuent de planer sur certaines localités du centre. Depuis la semaine dernière, les villages de Singidara et Famabougou, dans le cercle de Nyono, se vident de leurs habitants. Ces déplacements font suite à un ultimatum des hommes armés leur demandant de quitter les lieux. Les détails avec Fatih Yattara.
Des habitants de Singindara joignent depuis leur lieu de refuge affirment que le village est aujourd'hui presque désert. Tout était calme dimanche dernier, les gens vaquaient à leur occupation quand des hommes en armes sur des motos ont fait irruption dans le village, explique-t-il. Après avoir convié les villageois sur la place publique, ils ont sommé tout le monde de quitter le village, poursuivent ces mêmes sources. Cette situation a provoqué une débandade dans le village. Certaines sources rapportent que beaucoup d'habitants sont partis sans destination fixe. Le village de Famabougou, situé à quelques encablures de Singindara, a aussi reçu la visite des terroristes. Sommés de quitter leur localité le même jour, les habitants n'ont eu d'autre choix que de se réfugier dans les villages voisins. Les assaillants, avant de se retirer, ont emporté un grand nombre de bétail et plusieurs tonnes de céréales, selon des sources locales. Jeudi dernier, le village de Kanibonzon, dans la région de Banjagara, a été la cible d'une attaque terroriste. Cette attaque a fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants.
Les organisations de défense des droits humains condamnent ces attaques perpétrées contre les populations. L'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, demande aux autorités d'identifier les coupables et les traduire en justice. Pour les responsables de l'association, la non-gestion des questions liées à la violence des droits de l'homme sont susceptibles d'intensifier les frustrations et les crises. Maître Mokhtar Mariko est le président de l'AMDH. Il est joint par Fatih Yattara.
Et cette fois-ci, nous ne voudrons pas que ce soit des enquêtes qui seront placées dans les tiroirs, parce que nous pensons que ça peut toujours amener des frustrations. Celui ou celle dont les parents ont été victimes ne comprendra rien tant que l'État ne lèvera pas son bouclier pour rechercher et faire condamner les auteurs. Nous avons tous les mêmes droits et l'État a l'obligation de nous protéger tous. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut ouvrir rapidement des enquêtes pour tous les cas de violation et d'exaction qui ont été commis dans le nord et dans les septentrions du Mali. Et ensuite, permettre aux victimes de venir s'expliquer et de réclamer réparation. On est obligé d'aller à la recherche de ceux qui sont les auteurs.
Il est 18h passé de 4 minutes. Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Comme annoncé dans les titres, le monde célèbre ce 1er mars la Journée mondiale de la protection civile. Au Mali, la journée est célébrée sous le thème « Le rôle des technologies de l'information dans l'évaluation des risques ». L'événement a été l'occasion pour la Direction générale de faire le bilan des opérations de secours, des réalisations d'infrastructures, entre autres. Un reportage de Jihad Tamaïka.
Plus de 2800 interventions de secours avec une prédominance des accidents de la circulation et des incendies. Ce bilan est communiqué par la Direction générale de la protection civile. Le secrétaire général du ministère de la protection civile, Oumar Sogoba, précise que ces réalisations sont soutenues par le budget national.
Les actes sont très très dynamiques. C'est un témoignage que la protection civile en République du Mali est en train de s'assumer. Et en cela, l'État avec. C'est là que nous devons saluer la population qui a consenti ce sacrifice-là.
La société civile se réjouit de la montée en puissance de la protection civile. Toutefois, elle invite les autorités à renforcer les capacités des soldats du feu sur toute l'étendue du pays.
Je suis très content de voir des nouveaux matériels très très sophistiqués. Une fois la protection civile m'a sauvé, je demande au gouvernement et à la population d'aider la protection civile.
On a vu beaucoup de choses. Ils sont là en train de sauver les gens. On est fiers d'eux.
À noter que cette célébration intervient dans un contexte de militarisation de la protection civile. La célébration de cette année se s'étend sur une semaine à travers des séances de formation, des exercices de simulation et des activités sportives.
Des sociétés coopératives d'orpaillage en partenariat avec l'Organisation internationale du travail OIT ont tenu une rencontre ce 27 février 2023 à Bamako. L'objectif était de discuter sur l'amélioration des conditions de travail et de vie des orpailleurs du Mali. Les organisateurs et participants disent beaucoup apprendre des échanges issus de cette rencontre. Sita Sidi Bé.
Parmi les 200 coopératives minières installées dans les régions de Kaye, Koulikoro et Sikasso, une dizaine ont bénéficié des matériels de travail. Pour le président de la Confédération nationale des orpailleurs du Mali, un grand rêve vient d'être réalisé. Mamadou Sanoussi Dafé.
Aujourd'hui, d'une manière solennelle, nous avons choisi parmi ces 200 coopératives que nous avons pu créer au niveau de ces trois régions orifères, on a pris 10 coopératives pilotes et nous allons les accompagner en les donnant des kits de protection et des kits de production.
Les bénéficiaires se disent satisfaits de cette offre faite par leurs partenaires. Pour eux, ces matériels leur permettraient de combler les attentes.
L'équipement du secteur minier par des matériels a été rendu obligatoire par l'État. Aujourd'hui, nous venons de recevoir certains matériels. Ça nous soulage beaucoup.
Vraiment, je suis très satisfait pour ce geste fait par le gouvernement. Pour moi, ce don est une grande considération à notre égard.
À rappeler que plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur minier ont participé à cette rencontre.
Direction à présent le Burkina Faso où se déroule en ce moment le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Une délégation malienne de plus de 200 personnes prend part à ce rendez-vous culturel. 8 films maliens sur les 10 ont déjà été projetés dans le cadre d'un partenariat entre le FESPACO et le Mali selon le directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Fousseyni Meïga annonce des activités bilatérales en faveur des deux pays. Depuis Ouagadougou, il est joint au téléphone par Mohamed Babakunta.
Le programme d'activité du FESPACO se déroule et nous avons des activités propres à la délégation malienne. Nous avons effectué une rencontre bilatérale avec les autorités en charge du cinéma et de la culture du Burkina qui va nous permettre aujourd'hui de mettre en œuvre des activités bilatérales. Mais aussi, nous avons une dizaine de longs métrages qui sont programmés dans le cadre d'un focus spécial Mali, qui ne sont pas en compétition, mais qui sont projetés dans le cadre d'un partenariat avec le FESPACO. Au-delà des films, nous avons quand même 3 Maliens dans le jury officiel. Cette année, nous avons aussi 2 autres Maliens dans une section qu'on appelle le FESPACO post-production qui va leur permettre de pouvoir pitcher leur projet et de bénéficier, s'ils sont retenus, de financement pour la post-production de leur film. Bref, je pense que le Mali est représenté valablement.
Dans la rubrique « On en parle », on aborde les enregistrements pour l'obtention de la carte biométrique. Certaines localités attendent toujours le début des opérations. Le processus doit prendre fin le 31 mars prochain. À Yorosso, Ségou et Tombouctou, l'enrôlement se fait dans les brigades territoriales de gendarmerie. Sur place, si les uns dénoncent la lenteur du processus, d'autres par contre se félicitent du dispositif mis en place pour l'enrôlement. Suivons ces quelques réactions recueillies par nos correspondants locaux.
Depuis hier, je suis venu trouver une liste d'attente ici. Je me suis enregistré, je n'ai pas eu qu'à présent. C'est très très compliqué même ici à Yorosso.
Je suis venu pour la carte biométrique. Je ne suis pas venu très tôt. Je vois qu'il y a assez de monde et c'est là.
Moi quand même, je n'ai pas eu de problème. Je suis venu seulement, on m'a enregistré.
Je suis venu pour identifier mon carte NINA. Depuis hier, vers 16h, j'ai écrit mon nom. J'attends mon tour.
Il faut le travail par ordre d'arrivée. J'ai déjà fini et je rentre comme ça à la maison.
Je veux que ça soit rapide parce qu'il y a des gens qui viennent sans prendre de petit déjeuner.
Je suis arrivé très tôt le matin et ils n'ont commencé qu'à 10h. Il faut qu'il y ait du suivi dans le travail.
À Tombouctou, les rythmes sont un peu lents pour se faire enrouler.
Au Mali, les oncles et les tantes sont considérés comme des pères et des mères. Généralement, ceux-ci sont appelés tontons et tantis en Bamanankan. Comment l'atmosphère se passe entre les neveux, nièces et les oncles et tantes dans les familles? C'est le thème de notre chronique Zoom sur du jour. Il est signé Khalifa Goïta avec la voix de Lale Tangara.
Presque dans toutes les familles, il existe ce tonton ou cette tantie qui fait peur à ses neveux et nièces. Ils veulent tout connaître et tout contrôler dans la famille. Leur présence trouble les discussions et plaisanteries entre les neveux et nièces. Dès qu'ils arrivent, vous allez entendre « Ewa ». Autrement dit, il ou elle arrive encore. Soudain, tout le monde se cherche. Les enfants sont obligés de les appeler tonton ou tanti, sans quoi vous êtes catégoriquement qualifié d'enfant maudit. À côté, il y a aussi des tontons et tantis qui sont démocrates. Vous pouvez compter sur eux et même leur confier vos secrets. Ils vous conseillent et vous protègent. Eux, ils n'exigent rien. Ils sont aimables, joyeux et ouverts. Tout le monde veut faire leur commission. Auprès d'eux, complexe zéro. Ce sont eux qu'on entend dire généralement « Non, appelez-moi par mon prénom, hein, car tonton ou tanti, je me sens vieux ou vieille avec ça. » Alors, soyons des gentils et aimables oncles et tantis pour nos chers enfants.
Retrouvons à présent Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Mariam, c'est quoi le thème du Grand Dialogue?
Série d'attaques au centre, à quand la stabilité? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Paul Oula, analyste, Mohamed Mamata Touré, analyste, et Amadou Lougué, président du Conseil local de la jeunesse de Badiangara.
Merci Mariam et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations, vous pouvez les réécouter sur notre site web au www.studiotamani.org. Restez toujours à l'écoute dans quelques instants, le magazine Santé. 62 cas de rougeole confirmés sur 210 cas suspects signalés dans les régions de Kai, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Menaka, Kidal et le district de Bamako. Aucun décès enregistré, tel est le point de la situation de la rougeole du 1er janvier au 26 février 2023 au Mali. Ces informations sont de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Ces responsables rappellent que la rougeole, reste un problème de santé publique. Son éradication passe aussi par l'implication des parents. C'est le sujet du magazine Santé réalisé et présenté par Khalifa Goïta.
La rougeole est une maladie virale et plusieurs facteurs favorisent cette pathologie chez les enfants qui sont les plus touchés et exposés. Docteur Khalifa Keïta, directeur général adjoint de la santé et de l'hygiène publique.
Il y a la proximité, c'est-à-dire quand les enfants sont trop proches. Il y a le cadre de vie aussi où dans une seule chambre fermée, il y a plusieurs enfants. Ça peut faciliter la transmission. Ça survient généralement sur un terrain affaibli. Chez un enfant malade qui fait une autre maladie, la rougeole vient se greffer. Ou bien c'est un enfant convalescent, ça survient sur un terrain malnutri. Dans ces manifestations, il y a des atteintes oculaires, il y a une conjonctivite qui peut amener des troubles de vision et même souvent aboutir à la perte de la vue.
Dans la région de Menaka, depuis janvier 2023, la prise en charge des cas de rougeole se passe normalement, nous dit Dr Nouhoum Koulibaly, médecin chargé de la santé sexuelle et reproductive à la Direction régionale de la santé de Menaka. Il ajoute que la politique de prévention se poursuit.
Nous avons eu à faire des prélèvements de tous les cas suspects. Nous avons eu 6 cas positifs. Nous avons eu à prendre des mesures de riposte pour la prise en charge rapide des cas pour éviter les décès. Dieu merci, pour le moment, il n'y a pas de décès notifié. À la date d'aujourd'hui, la région a vacciné 1338 enfants âgés de 9 mois à 14 ans. La situation elle est sous contrôle. Actuellement, la vaccination de la rougeole, c'est 2 doses. La première dose à 9 mois et 12 et 23 mois, on fait une deuxième dose.
Pourtant, sur ces 2 doses, reste un défi à relever dans certaines localités, notamment dans la région de Kai. Cela dû à certaines difficultés, comme l'explique Emmanuel Guinaud, suppléant au responsable du programme élargi de vaccination à la Direction régionale de la santé de Kai.
122 cas confirmés de rougeole pour l'année 2022. Donc la prise en charge, elle est symptomatique au niveau de nos différentes structures de santé. Les difficultés, il y en a assez. Nous constatons la faible couverture des enfants. L'objectif qu'on devrait atteindre, les 95% et plus, souvent on est en deçà de ces 95%. D'autres difficultés, c'est les enfants qui commencent la vaccination et qui n'arrivent pas à terminer. Dû au déplacement des parents, les zones d'accès difficiles, on utilise de gros moyens pour pouvoir atteindre vraiment ces zones difficiles.
Zéro décès a une valeur significative en matière de vaccination contre la rougeole, affirme le directeur général adjoint de la santé et de l'hygiène publique, Dr Khalifa Keïta. Il ajoute que les résultats sont salutaires.
Dans le temps, la rougeole était une maladie vraiment meurtrière, surtout chez les enfants. Mais aujourd'hui, avec la vaccination, avec tout ce que nous avons mis en place, si je ne me trompe pas, au maximum un ou deux cas de décès les trois dernières années. Et notre difficulté, c'est lié un peu à la fréquentation des services de vaccination pour les enfants. Parce qu'une épidémie de rougeole survient généralement dans les zones où la couverture vaccinale est basse. Sinon, sur le plan ressources humaines, disponibilité des vaccins, compétences techniques, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes.
Les professionnels de la santé sont unanimes que les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éradication de la rougeole. Ils invitent donc ces derniers à amener les enfants au centre de santé le plus proche en cas de symptômes.